VOA Afrique, les infos. À Washington.
Bonsoir à tous. Bagassi Koura pour ce bulletin d'information. On commence par la Centrafrique. Alors que la tension est toujours vive dans ce pays, une partie de la capitale est au centre du pays. Au moins 5 personnes ont été tuées dans un affrontement entre miliciens anti-Balaka à Bouali, à 95 km au nord de Bangui. On fait le point tout de suite avec notre correspondant Freeman Sipila.
La présence d'hommes armés en provenance de Pika-5 est signalée dans la journée au carrefour menant à Katin. Cependant, un autre groupe d'hommes armés assimilé aux anti-Balaka est repéré à quelques mètres de là, précisément aux abords de l'avenue Semak, non loin de la paroisse Notre-Dame de Fatima. Cette paroisse menacée hier par la milice armée de Pika-5 est désormais sécurisée par des casques bleus de la MINUSCA. Difficile de sillonner ces quartiers totalement déserts à la suite des événements d'hier obligeant la quasi-totalité des habitants à fuir vers les quartiers plus au sud. Des pertes en vies humaines auraient été enregistrées, en plus des dizaines de maisons et commerces incendiés. Par ailleurs, au moins 5 personnes ont été tuées mercredi et jeudi dans des affrontements entre deux factions anti-Balaka rivales à Bouali, ville située à 95 km au nord de Bangui. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Au Congo-Brazzaville, l'opposition a annulé ses marches contre les résultats du référendum. Selon elle, cette journée de vendredi devrait plutôt être consacrée au recueillement. 30 octobre 2015, les Burkinabés commémoraient aujourd'hui l'anniversaire de l'insurrection ayant renversé Blaise Compaoré au Burkina Faso. Il y a un an, jour pour jour, les Burkinabés disaient non à la modification de leur constitution. Et ce vendredi, dépôt de gerbes de fleurs, minute de silence à la mémoire de ceux qui sont tombés pour cette cause. Il faut dire que le clou des commémorations est prévu demain dans le cadre de la journée des martyrs. Manifestation pacifique ce vendredi à Conakry d'une cinquantaine de femmes de l'UFDG, l'Union des Forces Démocratiques de Guinée. Le parti du chef de l'opposition, Seloud Alaine Diallo, c'était pour exiger la libération des membres de leur parti, arbitrairement arrêtés selon elle. Lors de heures à l'occasion de l'élection présidentielle du 11 octobre, la manifestation s'est déroulée sans incident.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Guerre en Syrie, le bilan des attaques menées vendredi en Syrie contre des bastions rebelles à l'est de Damas et dans le nord du pays est passé à 91, dont 17 enfants. C'est ce qu'a annoncé l'OSDH, l'Observatoire syrien des droits de l'homme. L'administration Obama a autorisé le déploiement d'un contingent de 50 soldats dans le nord de la Syrie. Ce groupe servira de complément aux forces spéciales américaines en vue de coordonner les actions des troupes locales au sol et participera aux efforts de la coalition contre l'organisation État islamique. Et puis signalons aussi qu'une trentaine de migrants ont perdu la vie ces dernières 24 heures en Espagne, en Turquie et en Grèce. Et puis en sport, le premier coup de pédale du Tour du Faso a été donné ce vendredi. Les cyclistes devaient pédaler de Ouagadougou à Waïguia dans le nord du pays, soit une distance de 171 km. Retrouvons Salif Kabore sur la route du Tour.
Cette première étape, après 45 km de course, on a constaté que les Érythréens, les Burkinabés et puis les Marocains ont animé la course, puisque ce sont ces trois pays-là qui, de bout en bout, en tout cas, ont enlevé les trois points chauds qui étaient inscrits donc au programme de cette première étape. Et au finish, à l'arrivée, c'est l'Érythrée qui enlève donc l'étape de Waïguia, distant de 171 km en 4 heures 14 minutes 30 secondes, soit une vitesse moyenne de plus de 40 km/h pour dire que les cyclistes sont allés très vite. Certains moments donc de la course, on a même vu que le peloton allait à 50 km/h.
Voilà, sport, football, le Camerounais Alexandre Bellinga a été nommé sélectionneur par intérim du Cameroun en remplacement de l'Allemand Volker Finke, dont le contrat n'a pas été renouvelé. C'est ce qu'a annoncé la Fédération camerounaise de football. L'ancien international camerounais Bonaventure Diongkep est nommé sélectionneur adjoint. C'est tout donc pour ce bulletin d'information. Place maintenant à English USA et c'est avec Michel Joseph.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.
Bonsoir madame, bonsoir messieurs, bienvenue à cette émission, votre antenne libre, votre émission depuis Washington. C'est la voix de l'Amérique, Eric Manirakiza, avec vous. Aujourd'hui, nous parlons du Rwanda et du Congo-Brazzaville. Et les députés rwandais ont adopté jeudi à l'unanimité un projet de réforme de la Constitution ouvrant la voie à un troisième mandat du président Paul Kagame en 2017 et lui laissant la possibilité en théorie de diriger le pays jusqu'en 2004. Jeudi donc, les députés ont modifié l'article 101 de l'actuelle Constitution qui date de 2003. Et désormais, le président de la République est élu pour un mandat de 5 ans. Il ne peut être réélu qu'une seule fois, a déclaré à la presse la présidente de la Chambre des députés, Donatine Mukabalisa. La Constitution de 2003 prévoyait deux mandats de 7 ans. Quelques donc 3,7 millions de Rwandais ont signé des pétitions lancées à travers le pays pour demander un maintien au pouvoir du président Kagame. La réforme constitutionnelle a été présentée par le pouvoir comme une pure initiative populaire, mais de nombreux observateurs y voient une manœuvre orchestrée par les autorités dans un pays régulièrement épinglé pour ses atteintes à la liberté d'expression et peu d'ouverture politique. Nous devons donc en parler. Nous allons parler en seconde partie du Congo-Brazzaville, où le président Denis Sassou Nguesso, a dimanche dernier, à travers un référendum, a obtenu le billet pour changer la constitution et lui permettant ainsi d'obliger un autre mandat ou des mandats illimités, de cumuler des mandats illimités. Aujourd'hui, l'opposition avait appelé à marcher à travers tout le pays, mais cette marche a été annulée et l'opposition a estimé que la journée était plutôt consacrée au recueillement en hommage des victimes du 20 octobre. Nous avons un invité ici au studio à Washington, c'est M. Hervé qui est originaire du Congo-Brazzaville. On aura également en ligne M. Parfait Kolela qui est opposant et en résidence surveillée. Il est toujours en résidence surveillée, Hervé.
Je crois qu'il peut répondre à la question.
Il va répondre à la question. Et nous sommes en direct de Kigali avec Albert Rudatsimbugwa. Il est directeur de la radio-télévision Contact FM à Kigali. Albert, bonsoir.
Bonsoir, Eric.
Bonsoir, monsieur Pascal Kolela. Parfait, plutôt.
Merci, bonsoir.
Vous êtes toujours
en Amérique, bonsoir.
Oui. Vous êtes toujours en résidence surveillée?
Oui, je suis toujours en résidence surveillée par la garde présidentielle du président Denis Sassou Nguesso qui m'entoure avec mes compagnons. Nous sommes environ 34 ici à mon domicile.
Ah oui, vous pouvez aussi dire bonjour à votre compatriote Hervé.
Bonjour, parfait, c'est Hervé.
Bonjour Hervé, bonjour, compagnon de lutte.
Oui.
Oui, on va commencer par Albert. Albert, est-ce qu'on peut considérer ce changement en vue de constitution au Rwanda comme ça se passe dans d'autres pays, notamment au Congo-Brazzaville où il y a des problèmes aujourd'hui?
Bien, je crois que chaque situation est particulière. Chaque endroit où il y a ce genre de processus, en tout cas, je crois à sa propre histoire, à son propre scénario. Au Rwanda, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'il y a une participation de la population d'une façon réelle, parce que chaque fois, on essaie de vouloir dire ce Rwanda. Si ce n'était pas le cas, ce serait visible comme partout ailleurs. Je veux dire, il y aurait des gens dans les rues, ou bien il y aurait des déplacements de gens, il y aurait des gens qui seraient restés à l'île de Vitrov. Ça se verrait, je veux dire. Mais au Rwanda, ça se passe vraiment comme ça devrait se passer, je dirais, dans le sens où il y a une véritable conversation.
Hervé, Vous observez ce qui se passe au Rwanda. Quel est votre commentaire?
Mon commentaire est le suivant. Moi, j'aime bien le président Kagame. J'estime que c'est quelqu'un qui a fait un très bon travail depuis qu'il est arrivé au pouvoir. On a besoin de leaders comme le président Kagame, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui vient et qui construit son pays. Et quelqu'un qui, avec le temps, l'opportunité qu'il a eue, a accompli un certain nombre de choses pour le pays et pour la population. C'est une très bonne chose. Mais changer les constitutions, ça c'est une erreur, surtout en ce moment précis où nous avons des gens, des dictateurs qui veulent s'attarder au pouvoir. Donc j'estime que malgré l'estime que moi j'ai pour le président Kagame, je pense qu'il y a des hommes au Congo, au Rwanda, qui sont capables aujourd'hui de diriger ce pays, et donc il faut donner la chance à ces hommes d'aussi prendre la charge de ce pays, et c'est comme ça qu'on va former une autre classe d'hommes politiques. Donc c'est ça un peu ma perspective, bien que je dois reconnaître que j'ai un faible pour le président Kagame.
Oui, mais d'autres candidats sont aussi autorisés à aller en compétition avec lui, et s'ils le battent, tant mieux.
Mais j'estime que si la Constitution prévoit que le président doit rester pour deux termes, il faut que le président reste pour ces deux termes. Et si une fois que ces termes, disons les termes qui sont adoptés par la Constitution prennent fin, il faudrait que le président parte. Ici, nous avons eu par exemple le président Bill Clinton, qui à mon avis était un grand président, qui a fait beaucoup de grandes choses. On aurait souhaité qu'il reste 4 ans de plus. Mais étant donné qu'il y a, il y a des règles de jeu, il faut respecter les règles de jeu. C'est comme ça qu'on peut faire asseoir la démocratie. Et surtout que nous avons des démocraties qui sont jeunes en Afrique, il faut vraiment pousser à respecter ces constitutions, parce que c'est dans cette habitude-là et de cette façon-là qu'on va pouvoir l'asseoir. Donc moi, j'inviterai au président Kagame de faire preuve de vision, de faire preuve, de dépassement de ses propres désirs, et surtout de dépassement de des gens qui sont tout autour, qui peuvent certainement le conseiller de rester en place en disant que c'est l'homme indispensable dans un pays.
Oui, il y a eu une pétition signée par environ 4 millions de personnes.
Je comprends ça. Je comprends ça, mais je comprends parfaitement. Peut-être que si j'étais au Rwanda et Rwandais, j'aurais peut-être signé cette pétition. Mais malgré tout, il faut que l'on reste rigoureux. On doit être rigoureux dans cette perspective-là, parce que surtout en ce moment précis, où nous avons au Congo M. Sassou Nguesso qui veut changer sa constitution, qui est resté 32 ans au pouvoir. Nous avons M. Kabila qui veut changer sa constitution. Nous avons un certain nombre de pays qui veulent changer leur constitution. Donc nous pensons que ce qui est important, c'est vraiment de respecter ces constitutions, parce que ça donne un mauvais précédent et ça donne un mauvais signe pour tous les autres.
Albert, une réplique?
Oui, certainement. Je comprends son point de vue, mais c'est vraiment un point de vue à partir du Congo. Effectivement, il a dit aussi que s'il était au Rwanda, il aurait signé la pétition, certainement. Il y a un contexte bien précis au Congo, il y a un contexte bien précis au Rwanda. Encore une fois, ce n'est pas un seul pays, ce sont des cas particuliers. Et au Rwanda, il faut se rappeler une chose, c'est que voilà, depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui, le Rwanda vient de vivre sa plus longue période depuis l'indépendance de paix, de stabilité et de croissance inouïe. Je veux dire, les Rwandais ne vont pas simplement se dire, parce que partout ailleurs en Afrique, on est en train de changer la constitution, nous, on ne va pas changer la nôtre. La constitution a été faite par la population, par le peuple, elle est changée par le peuple. Le peuple au Rwanda a le sentiment qu'avec le président Kagame, on va plus vite, plus loin, et d'un temps qu'il est encore possible qu'il le fasse, et puis ouvrir cette porte. Voilà, c'est la situation. Mais en même temps, on est solidaire avec cette situation où il y a un abus de cette situation. Mais ce n'est pas le cas au Rwanda. Au Rwanda, les gens ont vraiment envie que ce président-là qui a montré ses preuves, et bien qu'il continue.
Allô?
Oui, mais bien entendu, c'est ouvert, comme dit Eric. Je veux dire, c'est une possibilité. Ça reste, on ne lui a pas mandaté d'être président. On a simplement ouvert cette possibilité. Les gens, si par la force des choses, il y a une évolution, il y a d'autres candidats qui se présentent, ben, voilà, ça reste des élections.
Je vais vous lire quelques commentaires des internautes postés sur notre page Facebook. Il y a Mahama Issa Moussa qui dit « Ce nouveau mandat est légitime car c'est l'émanation du peuple rwandais qui n'a reçu aucune contestation ». Il y a Abdul Radiri Diallo qui dit « L'Afrique n'a jamais fini de se ridiculiser à la face du monde ». Tous les présidents africains savent qu'ils ont les mains sales et veulent s'accrocher coûte que coûte afin d'éviter de se faire inculper. Ils ont toujours la chance que la justice ne soit pas juste, que l'opposition soit manipulable, faite à liquider et que la population majoritairement négligente soit déjà fatiguée des va-et-vient inutiles. Par-dessus, tous les fonctionnaires n'ont aucune maturité professionnelle et croient que leur vie dépend du régime dans sa continuité. C'est ce que dit Abdul et Jean-Pierre Moussungu Kachama dit « La démocratie au Rwanda est une utopie dont personne n'est dupe pour constater que les élus de ce pays nous font rêver. Le régime à parti unique, autrefois décrié en Afrique. » Flavie Nze dit « Paul Kagame aime son pays. En plus, il aime bien son peuple au Rwanda. Il n'existe pas des corruptions nocturnes comme en RDC. » Albert, quelques commentaires sur les points de vue des internautes.
Oui, de toute façon, il y a dans tous les sens. Donc, il y en a qui en fait, je crois que en Afrique, c'est vrai qu'on n'a pas les meilleurs exemples de meilleur leadership dans pas mal de scénarios. Mais je veux dire, pour une fois qu'on a un leadership qui est en fait une prestation assez remarquable, je veux dire, pourquoi est-ce qu'on devrait s'en priver? C'est ça la question qui se pose au Rwanda. Mais en fait, au Rwanda, la question est beaucoup plus profonde que cela. Je veux dire, si on s'appelle aujourd'hui, le Rwanda est un des pays qui a pratiquement réussi son programme qu'on a appelé les EMD. Donc, il y a une raison pour ça. C'est parce qu'au lendemain du génocide, de la guerre, le Rwanda a opté pour une vision de développement appelée la vision 2020. Donc, d'ici quelques années, on sera arrivé pratiquement au terme de cette première étape de développement. Et en fait, le Rwanda arrive maintenant de dire, mais la prochaine, elle doit aussi être repensée. Elle a été repensée et Kagame en est pratiquement l'architecte. Donc la question est de savoir, en 2017, en 2020, on aura la première génération qui n'auront pas connu l'indépendance, qui n'auront pas connu le Parmehutu, qui n'auront pas connu le génocide. Donc, tout cela avec qui auront été à l'école, qui auront eu les soins de santé, etc. Il va falloir savoir comment on absorbe toute cette nouvelle génération. Etc. Ce sont ça les vraies questions du Rwanda, de savoir comment ils vont avoir l'électricité, etc. Voilà. Maintenant, c'est dire est-ce qu'on va changer ou pas la constitution. C'est un acquis au Rwanda.
Oui. Un autre commentaire, Albert, posté sur la page Facebook, le président Kagame doit savoir que cette volonté de postuler à un troisième mandat pourrait provoquer un soulèvement populaire, alors il doit faire marche arrière sur sa volonté. Je pense aussi que la Chambre des députés devait savoir que son rôle est de défendre l'intérêt du peuple rwandais. Qu'en dites-vous?
Je rigole, quoi. Je veux dire, c'est une caricature, c'est simplement placer des slogans ou placer des modèles bien faits, je veux dire, au Rwanda. S'il y avait un problème, ça se verrait. Et le Rwanda n'est pas différent d'ailleurs. S'il y avait un mouvement, un soulèvement populaire, eh bien, on le verrait déjà maintenant. Il n'y a pas eu un ninja derrière tous les 4 millions de signatures qui ont été présentées par le monde.
Oui, gardez la ligne, Albert. On aura tout à l'heure des questions des auditeurs qui nous appellent, mais on va d'abord au Congo-Brazzaville. Pascal Parfait Kolela, vous êtes là?
Oui, je suis là.
Oui, ça fait combien de temps que vous êtes en résidence surveillée? Et comment vous le vivez?
Depuis le 20 octobre, donc jusqu'à maintenant, ça fait donc 10 jours.
Et comment vous le vivez?
Ben, très mal, quand on est surpris ainsi d'être privé de liberté avec 30 de ses compagnons qui ont leur domicile, leur famille. Ils ont laissé, ils étaient venus ici pour me voir et pour préparer le meeting du 20 octobre et qu'ils se soient retrouvés bloqués ici en laissant femmes et enfants privés de liberté. Ainsi, c'est, nous le vivons mal. Et surtout que je n'ai pas un terrain de football pour les abriter tous. Nous vivons ici, nous sommes près de 34. Donc, ce qui est illégal, ce n'est pas une situation que je ferais vivre même à mon pire ennemi. C'est inhumain. C'est contraire à la Constitution du 8 janvier 2002. C'est contraire aux droits de l'homme. Donc voilà, c'est ce que nous vivons ici malheureusement.
Oui, est-ce que vous avez accès à l'eau?
Oui, j'ai accès à l'eau, au petit nécessaire que l'ambassade de France m'a amené. J'ai demandé à ce que, qu'on me livre, qu'on me ravitaille en vivres, en eau, à tout ce qui est nécessaire. Mes compatriotes qui sont à l'extérieur, donc en liberté, achètent tout cela, déposent à l'ambassade de France qui a obtenu de temps en temps le droit de venir me déposer de vivres. Mais pas plus tard qu'hier, quand l'ambassadeur a envoyé le premier secrétaire, l'ambassade, il s'est retrouvé refoulé par les militaires qui m'encerclent. Ils n'ont pas voulu que les vivres entrent. Il a fallu attendre encore 24 heures pour demander une autre autorisation. Et cette fois-ci, c'est le consul de France lui-même qui s'est déplacé pour me les amener. Donc voilà, là, c'est la situation que nous vivons. Voilà.
Et comment pensez-vous que cela va se terminer?
Bon, mais nous sommes à la merci du président Denis Sassou Nguesso. C'est lui, c'est sa garde présidentielle qui m'entoure. Donc seul lui est à même de dénouer la situation. Aujourd'hui, nous avons eu mes collègues de l'opposition qui sont encore en liberté, ont eu une réunion avec l'Union européenne à la représentation du PNUD ici à Brazzaville. C'est une réunion qui a duré quand même au moins 2 heures. Entre autres sujets à la table, nos collègues de l'opposition ont demandé la levée de cette mesure qui ne s'explique pas. Et les ambassadeurs de l'Union européenne ont promis faire de leur mieux. Eux aussi sont surpris, ils ne comprennent pas pourquoi cela, sans notification par le procureur, rien de tout cela n'a été fait, mais on nous encercle, on nous incarcère. Donc nous comptons sur la volonté de la communauté internationale ici à Brazzaville, au Congo, qui fait pression, la volonté des membres de l'opposition et des militants. C'est nous qui les contenons. C'est moi qui les contiens depuis ma prison ici. Je les contiens parce que et rien ne m'empêche aujourd'hui de dire, de demander qu'ils se soulèvent et qu'ils viennent. Mais j'ai piqué parce qu'ils se feront tuer. Ils se feront tuer comme ceux qui sont morts le 20 octobre, qu'ils ont tués dans les rues. Ils ont cueilli à froid dans les rues. J'ai pitié la population. C'est pour cela que je demande qu'on négocie, qu'on mette un terme à cela. Aujourd'hui, nous avons voulu faire une marche. Cette marche a été interdite par la préfecture de Brazzaville. Il y a un arrêté préfectoral. Nous avons accepté d'arrêter cela et nous avons changé de programme. Nous sommes passés à un recueillement pour culminer à une ville morte, 2 jours de deuil national, en mémoire de nos martyrs, le lundi le 2 et le 3 novembre, nous avons décidé. Journée morte, ville morte, pour pleurer nos morts. Ce que nous avons décidé, nous sommes une position responsable. Donc nous voulons que le président comprenne qu'il a été élu C'est le peuple sur lequel il tire, c'est ce peuple-là qui l'a porté à la présidence de la République. En 2009, moi-même, j'ai été son directeur général adjoint de sa campagne présidentielle. Moi et au commissaire Issa, notre collègue de l'opposition qui est aussi en résidence surveillée, nous avons, lui, il était le mobilisateur de la campagne présidentielle. Moi, j'étais le directeur général adjoint. Donc, nous l'avons accompagné en 2009. Et maintenant que nous disons trop, c'est trop, arrête, il ne faut plus faire ce que tu fais parce que les élections au Congo ont toujours été truquées. Il y a eu toujours la tricherie. Nous disons non, arrêtons cela. Et voilà dans quelle situation il nous met. Voilà.
Oui, vous étiez son directeur de campagne. Vous dites qu'il y a eu des tricheries. Est-ce que vous avez eu à les connaître à l'époque où vous étiez, disons, son bras droit?
Oh, bien sûr. C'est pour cela que nous disons que la gouvernance électorale n'est pas bonne au Congo. Nous disons, mais à culpa, mais arrêtons cela. C'est pour cela que nous disons que nous savons ce qui se passe. Nous savons comment se passe la magouille. Nous disons, arrêtons cela. Asseyons-nous pour assainir le fichier électoral. Asseyons-nous. C'est cela. Regardez, l'exemple est là. Le référendum qu'il vient de faire, c'est un référendum bidon. Les ambassadeurs présents ici au Congo ont constaté que les bureaux de vote étaient vides, que ce soit à Brazzaville, à l'intérieur du pays, étaient vides. Les journalistes ont constaté cela. Mais qu'on nous dise qu'il y a eu 72% de participation, le taux de participation, alors qu'en temps normal, quand nous allons aux élections législatives et locales, le taux de participation ne dépasse pas les 15%. Alors, maintenant qu'il y a des troubles, les villes, les rues sont désertes, les bureaux de vote sont déserts, on nous dit qu'il y a un taux de participation de 72%. Ce n'est pas possible. Vous voyez, c'est pour cela que nous avons toujours exigé que les listes électorales soient revues, qu'il y ait des bulletins uniques, qu'il y ait des cartes biométriques comme partout ailleurs, comme ça se passe partout ailleurs, en Afrique et dans le monde. Il y a une transparence. C'est ce que nous exigeons avant son fameux référendum que nous disions anticonstitutionnel. Qu'il fallait, il y a eu donc, au Congo des dialogues, trois dialogues politiques. Le dialogue d'Evo, est une ville, le dialogue de Dolivy, qui est la ville de Dolivy, le dialogue de Sibiti. Pendant ces dialogues, la classe politique congolaise a décidé de remettre à plat le fichier électoral. Nous avons tous reconnu que les élections ne se sont toujours pas bien passées au Congo. Le fichier n'est pas bon, assainissons-le. Allons à des bulletins uniques de vote, à un fichier électoral biométrique. Nous avons tous reconnu cela. Mais quand s'il faut passer à l'application, c'est la fuite en avant. Voilà ce qui se passe au Congo. Oui, les élections ont toujours été truquées ici au Congo. Oui, c'est la vérité. Mais à coup pas, mais ça a été toujours ainsi. Voilà.
Gardez la ligne, il y aura des questions des auditeurs tout à l'heure. Monsieur Hervé, quelque chose à dire?
Non, je crois que c'est une situation qui est désastreuse pour Monsieur Sassou Nguesso, qui se prend toujours comme un homme de paix. Et aujourd'hui... où des opposants qui sont des vrais opposants, comme Parfait Kolela ou Kumbi Salissa, ils les gardent en otage, emprisonnés, simplement parce qu'il a peur. Il a peur parce qu'en fait, il sait qu'il est dans le faux. Et c'est ça qui est dommage. Et ce qui me choque encore plus, c'est de voir toute la communauté internationale, le président Hollande particulièrement. Et nous savons que M. Sassou Nguesso, c'est une marionnette de M. Hollande. M. Hollande, jusqu'à présent, n'a pas encore réagi afin de libérer l'opposant Parfait Kolela et M. Okombi Salissa. Ça, c'est ce que nous regrettons. Nous connaissons M. Sassou très bien, mais qu'il le fasse aux yeux et au su de tout le monde, devant toute la communauté internationale. L'ambassade de France... L'ambassadeur de France est au courant, donc ça veut dire que le président Hollande est au courant. Alors, tous les discours qu'ils nous ont donnés à Dakar en nous disant que la France soutiendra les peuples quand il y aura des manipulations des constitutions. Aujourd'hui, le peuple du Congo-Brazzaville s'est levé pour dire non à M.